Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les tribus sont une constante dans de nombreux pays du Moyen-Orient. L'Irak ne fait pas exception. Que sont-elles? Comment s'organisent-elles? Ont-elles un poids politique? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec Hocham Daoud, irakien, chercheur au CNRS. L'Égypte aura-t-elle bientôt une nouvelle capitale? Question récurrente depuis près de 30 ans. Le nouveau projet, lancé le week-end dernier à Sharm el-Cheikh, vise à désengorger le Caire. Un projet pharaonique à 45 milliards de dollars. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
L'Irak est un pays particulièrement instable, en tout cas déstabilisé depuis plusieurs décennies. Il a connu un conflit de 8 longues années contre l'Iran, une guerre d'invasion contre le Koweït, 13 ans d'embargo international, une occupation américaine et désormais une guerre civile. Force est de constater que la société irakienne est particulièrement fragmentée aujourd'hui. Mais dans cet océan de désordre semble surnager une structure particulière, la tribu. Hocham Daoud, bonjour.
Bonjour.
Anthropologue au CNRS, directeur scientifique du programme Crise des sociétés, crise d'État à la Fondation Maison des sciences de l'homme à Paris. Je précise que vous étiez jusqu'en septembre dernier responsable de l'Institut français du Proche-Orient en Irak. Hocham Daoud, que représente exactement la tribu en Irak et comment fonctionne-t-elle ?
La tribu, c'est une donnée sociale importante dans la société irakienne aujourd'hui. Elle regroupe des gens, un certain nombre d'hommes et de femmes. Ils se reconnaissent dans cette type d'alliance interpersonnelle, ce rapport sociétal. La tribu aujourd'hui, elle joue un rôle fédérateur au niveau culturel et social, des fois en termes de revendications, y compris politiques, économiques, joue un rôle de médiation entre les membres de tribus, mais avec d'autres tribus et à la fois en direction de gouvernement local ou national. Et quelquefois, la tribu aussi investit par un rôle militaire et politique. Mais vous savez, la tribu, c'est une donnée, c'est vrai. Quand on dit tribu aux gens, ils vont penser tout de suite, oh là là, c'est quelque chose d'archaïque, c'est quelque chose qui nous arrive de nuit de temps, comment se fait-il aujourd'hui en société irakienne qu'on a parlé moderne, etc., on parle encore de tribu. Non, la tribu aussi, comme une structure sociale, elle évolue, elle se transforme, et à la fois, elle essaie de s'adapter, elle se métamorphose.
Est-ce que les membres des tribus sont libres d'agir comme ils l'entendent en dehors de la tribu ? Comment ça se passe ?
Historiquement, la tribu, ça a été une petite société. Historiquement. Une tribu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire conscience d'un certain nombre de gens pour dire que nous sommes descendants d'un père. Souvent d'un père, parce que c'est une société patrilinéaire, donc c'est une société à domination masculine. Et à ce moment-là, elles disent, nous avons même origine. Si on dit cela, ça veut dire nous partageons même sang. Donc c'est une idéologie de consanguinité, c'est ce que je peux dire. Après, il dit, on se trouve sur un territoire donné. Donc il y a un lieu, on se reproduit socialement, démographiquement, etc. Et puis ils disent, puisque nous sommes de même origine, donc il y a une obligation d'entraide entre nous. Donc, c'est une forme de solidarité de corps. C'est qu'Ibn Khaldoun, à l'époque, il l'appelait Asabiya. Et puis, ils disent, écoutez, puisque c'est comme ça, il faut avoir une maison qui nous représente, qui devient, au fur et à mesure, une maison dirigeante. Et à ce moment-là, cette maison dirigeante, elle représente le tout tribal par rapport aux autres et par rapport au gouvernement local et fédéral. À partir de là, si on dit tout cela, nous sommes face à une petite société à vocation politique. Avant, la tribu, quand il avait un territoire, ça veut dire qu'il avait la souveraineté sur le territoire. Aujourd'hui, elle a perdu la souveraineté. Pour s'affirmer, elle doit passer par l'État ou par une autre force politique. Ce qui fait, la tribu, c'est vrai, s'adapte, mais elle perd quelques éléments qu'elle avait avant et elle continue davantage sur l'aspect social et culturel.
Alors aujourd'hui, la situation est extrêmement conflictuelle en Irak. Il y a un État central et puis il y a aussi une organisation qui est l'État islamique qui contrôle aussi un territoire. Dans ce cadre-là, quel est le lien de ces tribus avec soit l'organisation État islamique, soit avec le gouvernement central ? Comment elles s'organisent ?
Là, il faut voir la trajectoire qui a pris le djihadisme en Irak. Entre 2003 et 2009, le djihadisme en Irak, c'était pluriel. Il y avait des djihadistes irakiens, donc avec un ancrage local. Il y avait des djihadismes importés de l'extérieur. Al-Qaïda, etc., qui étaient dirigés par le fameux Jordanien Abu Mus'ab al-Zarqawi. Ce sont la plupart des gens qui venaient de l'extérieur dans une société étrangère. Ils voulaient s'imposer au nom de djihad, au nom de la religion la plus abstraite, la plus radicale. Or, la tribu, c'est une culture locale. Très rapidement, une forme de confrontation s'est produite entre ce djihadisme ultra-abstrait et la pratique tribale ultra-locale. Donc, à ce moment-là, les Américains, ils ont profité de ce type de contradiction. Ils ont produit ce qu'on appelle le recrutement des éléments de tribu pour les dresser contre le djihadisme, contre Al-Qaïda. Ils ont réussi. Le Qaïda a évolué. Les Américains se sont retirés. Les Irakiens eux-mêmes commis, au niveau fédéral, plusieurs erreurs et fautes vis-à-vis de la population sunnite, arabe, etc. Marginalisation, humiliation, maldistribution des richesses, etc. Donc ce qui s'est reproduit, le djihadisme s'est devenu beaucoup plus local. Ils ont commencé à recruter beaucoup plus de jeunes issus de tribus, des gens un peu humiliés, marginalisés. Daesh, ce qu'on appelle Daesh aujourd'hui, l'État islamique en Irak, en Syrie, a recruté plusieurs éléments de tribu, ce qui était impossible pour Al-Qaïda il y a quelques années auparavant. Donc les tribus, ils sont aujourd'hui divisés entre Daesh d'un côté, l'État irakien et leurs alliés américains et d'autres de l'autre côté. Il faut savoir une seule chose. Aujourd'hui, la tribu elle seule ne peut pas diriger une région et toute une société. Elle a besoin de quelque chose d'autre, venant souvent de l'extérieur. Donc la tribu a besoin de l'État, la tribu a besoin d'un pouvoir supralocal, la tribu a besoin de quelque chose qui les fait fonctionner, bouger localement.
Merci Hocham Daoud, anthropologue au CNRS. Pour aller plus loin sur cette question, je rappelle votre ouvrage paru en 2013 chez Démopolis, « La constante tribu, variation arabo-musulmane ».
Merci beaucoup, merci à vous.
L'Égypte pourrait se doter d'une nouvelle capitale d'ici quelques années. L'annonce a été faite le week-end dernier lors de la conférence économique sur le développement du pays qui se tenait à Sharm el-Sheikh, station balnéaire située sur la pointe sud de la péninsule du Sinaï, sur la mer Rouge. Bonjour Stanislas Ndayishimiye.
Bonjour Eric.
Vous étiez à Sharm el-Sheikh et il s'agit bien d'un projet pharaonique.
Oui, c'est un projet ambitieux de construction d'une ville de 700 km², une ville grande comme Singapour, où cette fois la ville de Paris intramuros, ou encore, pour la comparaison, 12 fois la superficie de Manhattan. Un projet qui prévoit le déménagement de toute l'administration, ce sera aussi une nouvelle capitale financière et les autorités égyptiennes annoncent une ville qui offrira une meilleure qualité de vie aux 5 à 7 millions de personnes qui y habiteront. Elle sera érigée à l'est de l'actuelle capitale égyptienne, entre le Caire et Suez. Une maquette de cette ville a d'ailleurs été présentée à Sharm el-Sheikh. Cette ville n'a pas encore de nom.
Et la construction de cette nouvelle capitale égyptienne est un vieux projet. Alors cette fois, les délais annoncés pour qu'elle sorte de terre ont-ils des chances d'être respectés?
On l'espère en tout cas. Le président Al-Sisi a affiché la volonté d'inscrire ce projet à son nom. C'est un projet qui remonte aux années 70. Ce n'est donc pas une surprise, comme le dit le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mounir Fakhri Abdelnour.
On y travaille depuis quelque temps. Et vous savez, le Caire est devenu une grande mégapole qui a besoin d'être modernisé.
Il s'agit de décongestionner une capitale égyptienne dont la population continue de croître. Elle compte déjà aujourd'hui 18 millions d'habitants et les projections donnent un chiffre de 40 millions d'habitants au Caire en 2050, donc d'ici 35 ans, Eric.
Et j'imagine qu'il va falloir déménager des gens dans un premier temps.
Oui, et à commencer par toute l'administration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la ville sera en fait située à une soixantaine de kilomètres à l'est du Caire. Elle devrait abriter le palais de la présidence, les différents ministères, le parlement, des districts pour les ambassades, les centres d'affaires, les universités, la culture et les loisirs et j'en passe. Elle sera dotée de son propre aéroport. Les zones résidentielles iront des villas cossues aux logements destinés aux classes moyennes et aux fonctionnaires.
Alors Stanislas, on connaît l'état des finances de l'Égypte, pas fameux. Comment le pays compte-t-il financer la construction de cette nouvelle ville?
La première phase du projet annoncé pour durer 5 à 7 ans coûtera près de 43 milliards d'euros. Et c'est un projet qui réjouit les investisseurs, comme le vice-président du groupe saoudien Citystar, Hassan Charbatli.
C'est une très bonne idée, c'est un marché qui est très très grand, c'est le plus grand du Moyen-Orient, il fait 25% de tout le monde arabe, et ils sont en train de faire une expansion très rapide partout, alors je pense que c'est une très bonne idée, je leur souhaite de tout mon cœur la meilleure chose qu'ils peuvent avoir ce pays, c'est des gens gentils, c'est un pays qui est très bien situé mondialement, géographiquement, climat incroyable, beaucoup d'histoire. Alors je leur souhaite tout ce qu'ils méritent.
Le groupe saoudien Citystar est présent en Égypte depuis une vingtaine d'années. Pour en revenir au financement de la construction de la nouvelle capitale égyptienne, le Caire a fait appel aux investisseurs des Émirats du Golfe. Les autorités égyptiennes ont déjà signé avec une société émiratie, Gulf Investment Corporation, qui devra donc être le maître d'œuvre.
Merci Stanislas Ndaïchimier, journaliste au pôle économie de la rédaction de RFI.
Merci Eric.
Orient Hebdo sur RFI.
Khebez Darleh est un groupe de rock syrien fondé en 2008 à Damas par quatre musiciens. Le nom veut dire « le pain de l'État », synonyme en Syrie de bien-être et de vie agréable. Un titre pour aimer ce groupe, « Beth Hammer, construis-le ». Hammer du groupe syrien Khebez Darleh.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, les suites de l'attentat contre le musée Bardo de Tunis font l'objet de nombreux articles et éditoriaux dans la presse arabe.
Oui, la conclusion de nombreux éditorialistes, c'est que nul dans le monde arabo-musulman n'est à l'abri de l'extrémisme terroriste. Alors même ceux qui semblent avoir réussi leur transition démocratique, comme la Tunisie. Alors ils soulignent que dans le cas tunisien, le parti islamiste Ennahda a fait preuve de plus de souplesse et de sagesse que d'autres formations islamistes, comme par exemple les Frères musulmans en Égypte, mais ils ajoutent que le parti, après l'attentat contre le musée Bardo, se trouve sur la défensive face à des accusations, même si elles sont pour l'instant peu nombreuses, des accusations d'être l'entité mère dont ont émané tous les groupuscules extrémistes musulmans. Alors, il rappelle aussi que la Tunisie est le pays arabe qui a fourni le plus grand nombre de combattants étrangers dans les rangs du groupe État islamique, un phénomène qui aura un effet boomerang et qui a peut-être déjà commencé.
Et puis Alexandre, la presse arabe commente la victoire de Benjamin Netanyahou aux élections israéliennes et ses conséquences.
Oui, une victoire qui est perçue par les journaux arabes comme une défaite pour tous ceux qui croyaient encore à la possibilité d'une solution négociée pour la question palestinienne, et donc une victoire qui va renforcer l'aile dure palestinienne, et notamment le Hamas, estiment les journaux, alors des journaux dont certains soulignent aussi le score historique réalisé par les Arabes israéliens qui sont arrivés troisième dans ces élections. Un résultat qui n'aura pas un grand impact sur la politique israélienne, européenne, notamment au niveau de la colonisation, selon les journaux, mais qui pourrait dans l'avenir faire des Arabes un acteur incontournable. Rares sont les journaux qui estiment que les pays arabes, qui doivent tenir un sommet à la fin du mois au Caire, pourront adopter des résolutions un tant soit peu efficaces pour soutenir les Palestiniens.
En tout cas, Michel Paul, pour la presse israélienne, c'est un résultat en forme de coup de théâtre.
Oui, on parle même du Yom Kippour de la presse et des sondeurs d'opinion, autrement dit, la Bérézina. Eric, mercredi matin, le lendemain des élections, les Israéliens ont lu des titres dans leur quotidien qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et la presse du week-end continue d'analyser le scrutin. Et comment Netanyahou, qui paraissait quasiment perdant, l'a finalement emporté par un véritable raz-de-marée. La victoire du Likoud, le parti du Premier ministre, est particulièrement ressentie dans les villes de la périphérie. Le Grand Tel Aviv a voté plus à gauche. Un quotidien parle de « Bibi Boom », Bibi the King, Bibi le roi, Mariv qualifie la victoire de knockout. Un chroniqueur fait remarquer que Netanyahou ne se déguise plus et qu'il a révélé le jour même du scrutin ses véritables positions nationalistes et même parfois racistes à l'encontre de la population arabe en Israël. Les commentateurs parlent aussi des difficultés de la gauche israélienne, de ce qu'il en reste, qui après avoir crié victoire dans un premier temps, a dû concéder finalement la défaite. Et puis aussi dans les journaux, la victoire remarquée de la liste arabe unifiée, désormais la troisième formation politique à la Knesset.
Et nous voilà donc partis, Michel, pour une coalition nationaliste.
Oui, dès dimanche, début des consultations officielles en vue de la formation de la coalition. La tâche sera relativement aisée pour Benjamin Netanyahou. Seul véritable problème, la loi qui stipule que le gouvernement sera limité à 18 ministres, un texte qui pourrait être amendé pour permettre une distribution plus importante de portefeuilles ministériels et satisfaire, selon la presse, les partenaires de la coalition et aussi les élus du Likoud qui s'étaient sentis lésés dans le gouvernement sortant. Et partout dans les journaux, le faiseur de roi, Moshe Kahlon, qui décochera probablement le ministère des Finances, qu'il souhaite plus que toute chose.
Et il est également en question, Michel, des relations avec les États-Unis.
Oui, finalement, le président Obama a téléphoné pour féliciter Netanyahou de sa victoire. Une conversation qui, selon la presse, n'a pas dû être très agréable pour Bibi. Le ton du président américain a été dur. Le quotidien Haaretz affirme que, selon des responsables de haut rang à la Maison-Blanche, les dommages provoqués par Netanyahou dans les relations entre Israël et les USA sont irréversibles. Et l'on parle de révision de la politique des vétos américains au Conseil de sécurité.
Alexandre Bouchanti, les Irakiens sunnites payent-ils les pots cassés de l'État islamique ?
Et c'est effectivement une question que se posent beaucoup de journaux arabes qui rapportent les nombreuses exactions commises par les milices chiites contre les habitants sunnites des régions reprises au groupe État islamique, notamment dans les alentours de la ville de Tikrit en Irak. Alors, des journaux qui s'inquiètent aussi des prétentions kurdes irakiennes, des Kurdes qui veulent rattacher eux aussi les régions conquises sur l'État islamique au Kurdistan irakien. Alors des journaux qui craignent donc que les sunnites ne subissent une sorte d'épuration religieuse et ethnique à cause des exactions que le groupe État islamique a fait subir à tous ceux qui n'étaient pas sunnites ou arabes.
Alexandre, les journaux arabes égyptiens se font aussi l'écho de la polémique qui a suivi dimanche dernier l'annonce de la création d'une nouvelle capitale pour l'Égypte, dont nous parlions tout à l'heure avec Stanislas Ndayishimiye.
Oui, une nouvelle capitale qui n'a pas encore de nom, mais qui, selon l'accord préliminaire qui a été signé entre l'Égypte et les Émirats, devrait s'étendre sur 700 km², soit cette fois Paris intramuros. Alors un mirage pour les détracteurs du projet qui estiment qu'il s'agit d'une utopie aussi inutile que coûteuse, puisque on estime le coût initial à 45 milliards de dollars. Et selon eux, c'est une utopie qui ne résoudra pas le problème de surpopulation du Grand Caire. Les partisans du projet, eux, qui sont soutenus par une large portion de l'opinion publique, estiment au contraire que le projet permettra au Caire et à ses 18 millions d'habitants de respirer un tant soit peu.
Pour conclure, Michel, votre photo du jour ?
Eh bien, c'est la photo des plateaux de télévision au moment de la présentation des sondages de sortie d'urne mardi soir. Ils avaient tout faux.
Et oui, l'électeur a toujours le dernier mot. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI. Littérature.